Tout d'abord, toutes nos excuses à nos auditeurs. La semaine dernière, nous n'avons pas pu faire d'émission. C'était un peu compliqué, on en est vraiment désolé. Mais on est là, fidèle au poste, même pendant les grèves. Bonjour Alexandra Koslik, je crois que vous avez marché aujourd'hui pour venir nous retrouver ce lundi à 14h. Merci à vous.
Bonjour, oui, j'ai un peu marché.
Merci en tout cas à vous d'être venu, même revenu. Enfin, c'est toute une histoire qu'on ne racontera pas ici. On a pu lire au mois d'août dernier votre premier roman qui s'appelle « À crier dans les ruines », un roman publié chez un éditeur remarquable aux Forges de Vulcain et avec un titre donc aussi mystérieux que poétique. D'où vient ce titre, « À crier dans les ruines » ?
Alors c'est un extrait d'un poème d'Aragon qui s'appelle « Poème à crier dans les ruines ».
Tout simplement. Et donc vous êtes une grande lectrice d'Aragon ?
Alors je suis professeure de français, donc oui, je connais un petit peu Aragon. Après, l'histoire du titre est assez... Enfin, je peux vous le raconter.
Mais oui, racontez-la.
Donc, en fait, j'avais un autre titre. Et chaque mois, avec les auteurs des Forges, nous dînons ensemble. Et donc, ils me disent alors ton titre, etc. Donc, je donne le titre qu'on avait choisi avec l'éditeur. Et là, ils me disent, mais ça ne va pas du tout.
Donc, on peut vous demander quel était le titre qui n'allait pas du tout ?
Alors oui, c'était « L'Arche verte ». Et donc, alors ça, c'était quand j'ai travaillé sur le manuscrit, c'était un autre titre, c'était Rayonnante. Et en fait, quand j'ai retravaillé 6 mois plus tard le manuscrit, j'ai rajouté les lettres d'Ivan qui n'apparaissaient pas au départ. Le titre féminin n'allait plus. Donc après, de Rayonnante, c'est passé aux deux terres, les deux terres. Et pareil, après les corrections, je trouvais que les deux terres, c'était plat. Non. Et avec David, donc mon éditeur, ensuite on a choisi l'Arche verte. Et l'Arche verte, tout le monde a dit non mais c'est déjà assez très compliqué.
J'avais un micro vert ce matin et un pull vert.
Oui. C'est ma couleur.
Je vois ça.
Et donc l'Arche verte, c'est quelque chose de très statique, très lourd et rayonnante, c'était mieux. Et en fin de soirée, Gilles Marchand, qui est aussi un auteur des Forges, m'a dit « Moi, quand je n'arrive pas à trouver un titre, je lis beaucoup de poésie, parce que la poésie est riche d'images, etc. » Et il me dit « Là, je suis en train de lire un poème qui s'appelle « Poème à crier dans les ruines ». Et en fait, c'est un poème, tu verras, lis-le, il parle pas mal de ton bouquin. Et je l'ai lu, et comme le poème « À crier dans les ruines » d'Aragon parle aussi d'un hetman, un cosaque Mazepa, un chef cosaque ukrainien. Je me suis dit, la coïncidence est trop belle. Donc voilà, c'est resté à crier dans les ruines.
Alors, on a parlé du titre, mais on n'a pas encore parlé du roman, et notamment du fait que c'est un voyage dans le temps. Et on va aller partir pour le 26 avril 1986.
C'est un accident, le premier de cette nature officiellement, un accident qui a fait des victimes. Ce sont à peu près les seuls éléments livrés par l'agence officielle TASS à Moscou sur ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche dans la centrale électrique nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine, à une centaine de kilomètres de la ville de Kiev. L'agence de presse américaine UPI, citant des témoins, membres d'équipes de secours, estime qu'il y aurait plus de 2000 morts, chiffre qu'il sera évidemment très difficile.
Il lance.
Sur ce que l'on sait de cet accident nucléaire, voici les explications de Patrick Hester.
Voilà, c'était un extrait du journal télé de ce que pardon, c'était un extrait. Moi, je crois que moi aussi j'ai été touché. C'était un journal du journal télévisé de ce qui s'appelait encore à l'époque Antenne 2, qui est aujourd'hui France 2, et qui était présenté par Claude Sérillon. Et alors, on voit à la manière, ce qui me frappe moi dans cet extrait, au-delà de l'événement, c'est la diction du présentateur. À l'époque, on parlait très très doucement quand on présentait le journal télévisé. Donc votre roman, on revient à lui, à crier dans les ruines, aux éditions aux Forges de Vulcain, se passe en Ukraine au moment de l'accident de Tchernobyl. Et j'avais juste envie de vous demander pourquoi faire un roman qui s'articule autour de cet accident. En fait, c'est pas un roman sur Tchernobyl, mais c'est un roman où Tchernobyl est l'élément déclencheur de l'histoire.
Oui, tout à fait. Alors, je suis d'origine ukrainienne. Mes grands-parents sont venus en France dans les années 30. Et après la catastrophe de Tchernobyl, quand je disais que j'étais d'origine ukrainienne, en fait, on me disait « Ah oui, c'est Tchernobyl ». Et je trouvais ça injuste que l'Ukraine soit stigmatisée par une catastrophe. En fait, elle était caractérisée par la catastrophe et il n'y avait rien autour. Et donc, alors de façon paradoxale, effectivement, mon premier roman parle de la catastrophe de Tchernobyl, mais pour mieux après s'éloigner en fait, de cette catastrophe-là.
Oui, parce qu'on alors, on va essayer de raconter un peu l'histoire sans trop la raconter. Moi, j'aime jamais trop raconter les histoires pendant l'interview. Il faut laisser le plaisir au lecteur. C'est une histoire de deux jeunes, de deux enfants, quasiment de jeunes adolescents, Léna et Yvan, qui vivent une sorte d'histoire d'amour quasi platonique parce qu'ils sont encore très jeunes. C'est un amour très fort mais platonique. Mmh. Et qui vont être séparés par la catastrophe. Elle va partir en France, lui va rester en Ukraine. Et à partir de là, vous écrivez un roman à partir de ces éléments-là. Mais n'empêche, pourquoi partir de Tchernobyl ? C'est quelque chose qui a tout détruit, qui a cassé les vies, qui a séparé les gens aussi ?
Oui, c'est un élément, effectivement, un élément perturbateur. Et donc, ça, c'était la cassure, finalement, qui provoquait l'histoire du roman.
Donc oui, puisque donc Léna part à Cherbourg avec sa famille. Alors, est-ce que, pour autant, vous avez voulu écrire un roman d'amour romantique entre deux personnages, entre ce jeune garçon et cette jeune fille ?
Alors, pour moi, ce n'est pas un roman d'amour. C'est pas une, enfin, on peut la qualifier de romance, mais c'est plutôt une absence d'amour. Et généralement, les lecteurs, quand ils reviennent vers moi, ils me disent « Oui, c'est une histoire d'amour, mais pas une histoire d'amour seulement entre deux personnes, c'est aussi une histoire d'amour, une histoire de la Terre, en fait, un attachement à la Terre. » Et en fait, donc, je suis professeure de français latin et grec, et forcément, il y a un mythe, le mythe de l'androgyne chez Platon, qui dit que finalement, avant, les hommes étaient composés de quatre membres, de quatre bras à quatre jambes. Et comme ces hommes, c'était des surhommes, ils étaient trop forts, les dieux ont choisi de les séparer. Et on cherche, en fait, toute sa vie, ce double qui, finalement, a été perdu. Et je trouvais que cette cassure, finalement, entre les deux, Léna vit en France et lui, il est resté en URSS, d'autant plus symbolisé par le mur de Berlin les sépare doublement.
Et là, parce qu'on est avant 89.
Oui, tout à fait. Et j'avais envie de renouveler, en fait, de réécrire ce mythe de l'androgyne chez Platon.
Ah oui, carrément.
Pas de le réécrire, mais, cas, mais voilà, c'est avec, voilà, de jouer avec,
de,
tout
de,
à fait.
De le réinterpréter. Oui. Vous avez écrit, vous parlez donc d'un accident nucléaire, de quelque chose qui a pulvérisé l'atome, qui crée une perturbation. Et vous avez malgré tout choisi une forme très classique, très linéaire. C'est là aussi un choix assumé. Vous avez essayé d'écrire quelque chose de plus éclaté, de plus... Est-ce que forcément on doit écrire d'ailleurs en rapport avec ce qu'on raconte ?
Oui, non, en fait, effectivement, c'est assez, c'est une forme assez classique. Le chapitre s'ouvre sur le retour de Léna en Ukraine et après, c'est un retour en arrière. Donc, effectivement, on sait déjà qu'elle revient en Ukraine, mais c'est un petit peu comme dans une tragédie où finalement, on connaît la fin déjà, on sait que tout le monde meurt. Mais le truc, c'est pas savoir que tout le monde meurt, c'est comment ça va se dérouler finalement. Et le roman, c'est ça aussi.
Alors, je vais vous citer, je vais lire un extrait. « Tu sais bien ce qu'est l'âme slave, ses tourments et ses défiances, mais as-tu déjà lu dans les yeux d'un vieillard cet éclat étrange qui clame un retour à sa terre, l'appel de la patrie et de ses racines, plus fort que ses radiations invisibles ?» C'est aussi donc un roman d'amour entre des personnages et une terre et un pays.
Oui, tout à fait, oui. En fait, alors il se passe quelque chose d'assez incroyable en Ukraine, c'est que quelques années après la catastrophe, il y a une zone la zone contaminée, donc c'est une zone interdite aux hommes, et donc elle a été évacuée 4 jours après la catastrophe. Et quelques années après, il y a certaines personnes âgées qui sont revenues sur cette terre, donc de façon illégale, tout en disant je ne peux pas vivre ailleurs qu'ici parce que ma vie est là et la terre est plus importante que finalement les radiations. Donc c'est ce qu'on appelle en Ukraine les samosioles. Et donc, ils vivent dans cette zone interdite.
Mais j'ai l'impression que ce n'est pas que des personnes âgées. Il y a aussi des personnes plus jeunes qui, finalement, forme de marginalité, on dirait une ZAD en France.
Un oui, peu.
Ça,
tout à fait.
Ça fait un peu penser à oui. Ça, la manière dont... Enfin, c'est les images qui viennent en vous lisant.
Oui, c'est ça.
Ils occupent l'espace alors qu'ils n'ont pas le droit. Et oui. Ils ont recréé un autre mode de vie. Alors, quand même, soyons clairs, ce n'est pas non plus un roman documentaire sur Tchernobyl et après, parce que votre héroïne vit à Cherbourg.
Oui.
Donc, elle est tout à fait très éloignée de ça. Et les deux tiers du livre ne se passent pas à Tchernobyl.
Tout à fait.
Ça, c'est un choix, Cherbourg, parce que quand même, quitter Tchernobyl pour se retrouver à Cherbourg, c'est quand même pas beaucoup, pas de chance, j'ai envie de dire.
Non, après...
Ça sent ironique, ce qui n'est pas drôle d'ailleurs. Mais...
Tout à fait, oui. C'est un peu l'ironie tragique. En fait, son père était ingénieur à la centrale et quand il part, grâce à un passe-droit, bah, il se retrouve finalement dans une autre centrale. Et pour moi, en fait, Cherbourg, c'était vraiment l'extrême ouest. Voilà, c'était vraiment la pointe... Elle ne pouvait pas aller plus loin.
Elle ne pouvait pas aller plus à l'ouest, quoi, une fois qu'on était à...
Voilà, c'était un symbole.
Vous n'êtes pas du tout normande ?
Si, ouais, je suis normande aussi. Mais pas de Cherbourg, de Caen.
Ah, c'est très... Oui, c'est l'autre côté, si je ne m'abuse.
Oui, c'est Basse-Normandie aussi. Enfin, l'ancienne Basse-Normandie. Mais...
Vous croyez vraiment qu'un exil, c'est une histoire d'amour interrompue ?
Alors, l'exil, c'est effectivement quelque chose qu'on interrompt de façon très brutale. On n'a pas forcément le temps de dire au revoir, ce qui est le cas là de Léna.
Ce qui a été le cas des gens aussi. Hein. Ils sont partis, sans revoir leur famille.
Oui, oui, tout à fait. En fait, on leur a dit, parce que comme les objets étaient irradiés, on leur a dit, vous partez, mais sans rien. Donc effectivement, du jour au lendemain, ils sont partis sans valise, sans... Voilà. Et effectivement, oui, c'est une interruption, tout à fait.
Et ce qui est intéressant, ce qu'on voit dans votre roman, c'est que tous les personnages ne réagissent pas pareil. Il y a ceux qui veulent tourner la page et commencer une nouvelle vie. Puis il y en a d'autres qui restent attachés à cette mémoire, à cette tradition. Enfin, pour certains, ce qui arrive en France, c'est le début d'une nouvelle vie. Mmh. Alors que d'autres restent attachés à leurs racines. Voilà. Il y a vraiment ça dans les communautés, entre guillemets, immigrées, selon vous ?
Bah, tout dépend effectivement du caractère, mais soit la personne peut effectivement soit regarder en arrière et être nostalgique. Il y a une certaine mélancolie qui s'installe d'un pays perdu, comme un Éden.
C'est un piège pour vous, ça ?
Un piège ?
C'est un piège ? Je ne sais pas, la mélancolie. C'est peut-être une question idiote aussi.
Non, la mélancolie, elle est... Je pense qu'elle est nécessaire parce qu'il y a quand même un devoir de mémoire. Il faut se souvenir d'eux, mais il ne faut pas que ça empiète sur la vie actuelle et sur le présent. Il ne faut pas que ça emprisonne la personne dans un passé et l'empêche d'aller de l'avant, finalement.
C'est peut-être ce cadeau que fait le père de Léna qui, lui, ne veut plus entendre. Puisqu'il y a le père et la grand-mère, essentiellement. Mmh. La grand-mère qui est la racine avec le passé, qui tisse un lien très fort avec sa petite-fille pour lui raconter un peu en cachette ce qui s'est passé avant et l'histoire de l'Ukraine. Mmh. Puis il y a le père qui, lui, ne veut plus du tout parler d'Ukraine et qui veut que sa fille aille de l'avant. Alors, c'est parfois peut-être aussi un cadeau de pousser ses enfants sans trop les attacher à ce passé-là ?
Oui, complètement. En fait, là, pour ce père-là, c'est un cadeau. Effectivement, il choisit... il dit à sa fille, de toute façon, oublie ton passé. Là-bas, soit ils sont morts, soit ils sont malades. Donc, à ce moment-là, il faut aller de l'avant. Donc, pour lui, c'est un cadeau. Mais parfois... Enfin, on peut faire des cadeaux empoisonnés.
Oui, et puis bah, comme vous avez parlé tout à l'heure de latin et grec, les parents boivent... Enfin, ça, c'est pas du tout latin ou grec. Il y a ce proverbe très français qui dit les parents boivent, les enfants trinquent. Mmh. Il y a quand même cette idée de lignée où finalement, on est parfois en lien plus avec ses grands-parents qu'avec ses parents. Il y a des fils invisibles, en fait, dans l'histoire.
Oui, tout à fait. En fait, je voulais aussi traiter de transmission intergénérationnelle dans ce livre. Il y a un petit peu, finalement... Enfin, j'aime beaucoup les symboles. Et donc, ce qui s'est passé en Ukraine avec les radiations, ce sont des choses invisibles. Et finalement, cette transmission intergénérationnelle aussi, ce sont des liens invisibles qui ne... Enfin, on les porte pas sur soi. Et pourtant, en fait, c'est comme ils agissent comme des sédiments en nous. Stomping outside, banging on the door. Carbon dioxide, like a candy store. A million engines running out for power. Avoid the questions, they taste a bit too sour. In the service of the game, we're
no condemnation. Who's responsible for the sin you caught? State of the nation.
C'était Tonem, Carbone Dioxide, un extrait de la fraîche liste de Radio Campus, toujours excellente.
La relève sur Radio Campus Paris.
On est toujours avec Alexandra Kochlik, dont le premier roman A crier dans les ruines, apparu aux éditions Aux Forges de Vulcain à l'été 2019. Qu'est-ce que vous pensez de l'accueil de ce roman? Vous êtes contente?
Oui, extrêmement contente, oui, tout à fait. En fait, dès le mois de juillet-août, il y a des libraires en fait, qui ils établissent des fiches de lecture et donc ils font un retour à l'éditeur et les retours étaient excellents. Donc j'abordais finalement, quand le roman a été publié en fin août, je savais déjà qu'il y avait des libraires qui allaient me porter et ça c'est très important.
Vous êtes un peu là comme une rockstar, vous faites une tournée des librairies en France. C'est une question, mais alors, c'est vrai que quand on voit, moi je suis ça sur Facebook ou sur Instagram, parfois quand on suit la vie des écrivains, on a vraiment l'impression de rockstar qui dorment toutes les nuits à l'hôtel, qui font la tournée des librairies.
Oui, alors du coup effectivement je fais pas mal de librairies, oui. Après je travaille aussi, je navigue entre les deux.
C'est donc très épuisant la sortie d'un roman? Même si c'est très plaisant de rencontrer les lecteurs.
Oui, c'est un certain rythme. En fait, mon éditeur au départ me disait que c'était un sprint. Et puis là, il me dit, nous sommes passés en mode marathon.
Donc, vous n'étiez pas prévenu, vous étiez préparé pour un sprint. Vous avez réalisé un rêve d'enfant en écrivant ce roman? Parce qu'on imagine que vous avez quelques points communs avec Léna et que comme elle, le livre a été important dans votre vie.
Alors,
est-ce que j'imagine bien?
Alors, pour moi, c'est... En fait, c'est plus qu'un rêve, puisque comme je suis prof de français et au départ, je ne pouvais pas écrire parce que écrire, c'était être l'égal des auteurs morts comme Victor Hugo, etc. Et c'était pas
Aragon.
Et ce n'était pas possible pour moi. Et je me suis mise à l'écriture assez tardivement, il y a une petite dizaine d'années. Ensuite, j'ai suivi des ateliers d'écriture, j'ai animé des ateliers d'écriture. Et donc, pendant 6-7 ans, donc, chaque semaine, j'écrivais des textes courts. Et un jour, un auteur m'a dit, mais... Et pourquoi tu passes pas au format long ? Parce que ce que je vois là, c'est beau, donc t'as tout pour toi. Et le fait que d'avoir une caution comme ça d'un auteur qui était déjà confirmé, je me suis dit, bon, allez, je vais le suivre, et j'ai écrit ce roman.
Vous parliez de Victor Hugo. Qui sont les auteurs qui vous ont influencé, qui vous ont, j'ai envie de dire, formé quasiment, qui vous...
Alors moi, j'ai une formation très classique. Hein, alors effectivement... Alors Victor Hugo, certes. Après Homer, forcément. Ovid et plus
Ah oui, le plus récent.
Le plus récent. Alors Kundera aussi, dont je parle dans le roman. Je crois que Kundera, ça a été vraiment mon premier coup de cœur de lycéenne.
Parce que c'est un écrivain de l'exil, lui aussi ?
Eh ben alors, je ne le savais pas à ce moment-là, parce qu'à 17 ans, on lit, on aime, mais on n'a pas forcément le recul, la distance pour comprendre. Mais effectivement, par la suite, oui, j'ai beaucoup lu d'auteurs qui ont écrit sur l'exil. Et lui,
Un jeune auditeur qui n'aurait jamais lu Kundera, vous lui conseillez de commencer par quoi ? Allez, on a une prof qui donne des conseils.
Alors, le plus classique, c'est L'insoutenable légèreté de l'être.
Qui vient d'ailleurs de reparaître dans une très jolie édition chez Folio, avec un chien. C'est très joli.
et La plaisanterie aussi. La plaisanterie, c'est un peu plus politique, mais La plaisanterie et peut-être Risibles amours aussi.
Faites tout. Ouais. Finalement, tout Kundera. On peut lire tout Kundera. Il n'y a pas Yourcenar dans votre panthéon ?
Ah si, si, si.
Parce que je trouve que dans la manière dont vous travaillez l'histoire, dont vous travaillez le surnaturel et le raisonnable, il y a quelque chose qui m'a fait penser à Yourcenar. C'est peut-être une référence écrasante, je ne vais pas vous écraser avec, mais je me suis dit que ça devait être quelqu'un que vous aimiez.
Oui, tout à fait. Oui, forcément, avec L'œuvre noire ou Mémoire d'Adrien, oui, c'est exactement, tout à fait. Oui, ce sont pour moi, des chefs-d'œuvre.
Et qui sont en plus une écriture assez classique. C'est le classicisme, je pense, porté au maximum, Yourcenar. Oui. Est-ce que, justement, vous pouvez nous dire un mot de cette manière dont vous avez envisagé le rapport entre la raison technicienne, et puis tout cet univers de croyances irrationnelles, presque de sorcellerie. Alors, je ne sais pas si on parle de sorcellerie en Ukraine, mais il y a un peu quelque chose comme ça. Il y a par exemple le rôle de deux amulettes, qu'a fabriqué Ivan pour Lena et qui l'accompagne toute sa vie durant. Est-ce que vous vouliez aussi écrire sur ça ?
Oui, tout à fait. En fait, Alors c'est pour ça qu'au début du roman, il y a une citation qui se trouve dans la supplication de Svetlana Alexievitch, où un professeur dit que finalement on a peu écrit sur Tchernobyl parce qu'on peut pas, il n'y a pas de raison à tout ça, on ne peut pas trouver de choses logiques. Et pour moi en fait, donc je ne voulais pas refaire une supplication.
Est-ce qu'on peut dire juste un mot sur ce que c'est la supplication nos auditeurs ?
Oui, tout à fait. La supplication,
je vous coupe la parole, mais c'est Svetlana Alexievitch qui a eu le prix Nobel de littérature.
Oui, alors c'est une Biélorusse qui effectivement a pu recueillir des témoignages de personnes qui ont vécu la catastrophe, donc de façon plus ou moins proche. Et elle a compiler ça dans La supplication.
Elle en a fait un véritable travail littéraire.
Oui, tout à fait.
Et donc vous aviez ça en tête et à partir de là, vous vouliez raconter peut-être une manière irrationnelle d'expliquer. Oui. C'est bizarre de dire ça. Mais...
Oui, en fait, pour moi, il n'y a pas de raison, effectivement. Donc, je suis allée puiser vers ce que je connaissais, c'est-à-dire la mythologie. Et pour moi, Tchernobyl, c'est la démesure de l'homme, c'est-à-dire que c'est de nouveau ce que racontent les mythes grecs. Et donc, il fallait trouver aussi un angle. C'est cet angle de vue que j'ai choisi de prendre, puisque c'est pas une. Il fallait trouver, par exemple, des déesses vengeresses, etc., pour comprendre Tchernobyl.
Il y a aussi un autre écho à la mythologie, c'est qu'à la suite de Tchernobyl, on trouve des animaux fantastiques qui sont liés à des mutations liées au nucléaire, mais ça fait penser aux animaux de la mythologie.
Oui, tout à fait, un peu comme des chimères.
Ouais.
Oui. Et d'ailleurs,
qui sont un peu l'incarnation de cette démesure humaine, peut-être.
Oui, oui.
Mais monstrueuse, là.
Oui, tout à fait. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que, en fait, dans cette zone interdite, sont revenus des animaux qui étaient en voie de disparition dans cette région ukrainienne. Et ils prospèrent dans cette région. Et en fait, comme ils vivent moins longtemps qu'un homme, il y a des mutations génétiques, mais qui se voient moins. Et donc là, en ce moment, il y a des scientifiques qui étudient cette zone comme une réserve naturelle.
Ouais, et puis il y a une espèce de vengeance de la nature qui reprend tous ses droits.
Tout à fait. Ça, je trouve ça incroyable. Pour moi, c'est effectivement la nature qui dit mais je reprends mes droits et peu importe ce que fait l'homme.
Qu'est-ce que vous évoquez vous avez vu la série, pardon, chez Tchernobyl?
Oui.
Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous la conseillez? Ah, elle, pour le coup, elle se passe vraiment pendant la catastrophe. C'est une histoire de catastrophe.
Oui, tout à fait. Alors, je la conseille. Elle est extrêmement bien faite. Et d'ailleurs, elle a pas mal repris d'éléments qu'on retrouve dans la supplication de Svetlana Alexievitch, comme cette femme de pompier. Et alors moi j'ai été marquée, c'est alors il y a 4 épisodes et vraiment je crois que c'est le premier épisode, il y a une femme qui est en train de traire sa vache et il y a les autorités qui arrivent et qui lui disent maintenant il va falloir partir et elle continue de traire sa vache et elle dit mais je ne partirai pas et donc les agents sanitaires lui disent mais sinon il faut partir, de toute façon, on va tuer votre vache. Et après, il tue tous les animaux. Et ça, je trouve que c'était important de montrer ce rapport de ces hommes à la terre.
À leur terre, ouais, c'est toujours cette même histoire. Mais c'est quoi? C'est un refus de s'adapter au monde? On reste là quoi qu'il arrive?
Oui. Après, en fait, c'est alors l'Ukraine, c'est un pays, enfin tous ces pays-là sont des pays marqués, sont des pays cicatrices parce que, par exemple, alors mes grands-parents viennent d'une région qui s'appelle la Galicie et cette région a été autrichienne, puis polonaise, puis ukrainienne, puis soviétique. Et finalement, en fait, pour moi, le plus important, c'est pas les frontières, c'est pas le gouvernement qui crée quelque chose, c'est vraiment la terre, ce rapport à la terre.
Pour finir, Alexandra Kosy-Chelik, merci beaucoup d'être venue. Je vais juste lire un tout petit extrait de votre livre. Dans cette maison sombre au mur décrépit, elle se sentait paradoxalement à sa place. Léna n'a cessé de voyager, de partager les mythes, d'établir des correspondances entre l'ancien et le moderne, encore, toujours, de l'avant. S'étourdir, mais là le vertige était autre, il lui a suffi d'entendre le récit de ses racines, de cette terre jamais oubliée. En revenant à Pripyat, Léna a coupé ses ailes pour mieux voler. Merci beaucoup pour ce roman. Dont je rappelle le titre, « À crier dans les ruines, aux forges de Vulcain ». C'est Alexandra Kosy-Chelik. Voilà, vous venez d'écouter La Relève. Et je suis très en retard, c'était déjà le 9e épisode de la saison 4. L'émission était réalisée par Caroline, que je remercie particulièrement d'être venue en ce jour de grève. Elle était présentée et préparée par Christophe. On se retrouve la semaine prochaine, qu'il y ait des grèves ou pas. Bonne semaine, à bientôt.